Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Lorsque la conférence qui suit fut donnée dans le cadre de l'Université des Annales, à la demande de son président Francis Ambrière, son auteur, l'écrivain André Mauroy, entrevoyait bien le danger du progrès. D'un progrès apporté par la lampe électrique, par exemple, d'où l'invention de la radio et de la télévision. Ainsi, disait-il, les enfants sont intoxiqués de radio et ne peuvent plus travailler qu'en musique. Et les familles ? Les écrans ou les haut-parleurs habituent les êtres à être alimentés en permanence de mots et de spectacles, ce qui supprime la nécessité de penser. Fin de citation. Mais André Mauroy, très fin, ne voyait pas que des dangers, évidemment, dans les progrès de la science. Ce progrès qui, parfois, s'annule lui-même. Mais il s'inquiétait déjà de l'énergie que l'on brûlait sans compter. Brûler du charbon, c'est presque aussi bête que de brûler du diamant. La seule bonne machine à capter le soleil, c'est la vache et la plante. Oui, nous construisons des merveilles, mais nous sommes des merveilles. Les grandes conférences, L'homme et la machine, par André Mauroy, première diffusion sur la chaîne nationale le 30 janvier 1956.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Paul Valéry intitulait jadis un bel essai Regard sur le monde actuel. Notre ami Ambrière, en donnant pour titre d'ensemble à cette série Perspective, nous convie à jeter un regard sur le monde futur. Et il m'a assigné un thème que, semble-t-il, un savant spécialiste aurait traité beaucoup mieux que moi, profane, chétif, qui ne suis ni physicien, ni mécanicien, ni rien. Mais Ambrière, il nous l'a prouvé en maintes circonstances, c'est fort bien ce qu'il fait. S'il m'a confié le soin de vous parler de machines d'une infinie complexité et que je serais bien incapable de démonter, d'utiliser et même de décrire, c'est qu'il ne souhaitait pas que vous fussiez donné là-dessus des vues techniques, mais indiquer des directions générales quant aux pensées que ces machines peuvent éveiller et quant aux conséquences qu'elles peuvent entraîner. Les miracles de l'automatisme vont-ils rendre impossible ce plus précieux de la pensée? Sont-ils un progrès ou sont-ils un danger? Voilà notre sujet. Ne vous étonnez pas si ce sujet, je l'aborde en remontant assez loin en arrière. Pour expliquer la Révolution française, il faut tout de même remonter en arrière et parler de la monarchie. Pour expliquer le rôle des cerveaux électroniques, il faut d'abord indiquer ce qui les a rendus nécessaires et ce qui les a rendus possibles. Avant de parler de la deuxième révolution industrielle, celle qui doit nous occuper aujourd'hui, il faut rappeler ce que fut la première révolution industrielle et quel héritage elle nous avait légué. Paul Valéry disait que le progrès se reconnaît à deux traits, l'augmentation de la quantité d'énergie mise à la disposition de l'homme et le degré de précision auquel celui-ci peut arriver dans ses prévisions. J'associerai, moi, les deux idées en disant que le progrès se mesure à l'emprise de l'homme sur la nature, à la capacité de l'homme à faire de la nature quelque chose dont il puisse se servir. Imaginez, dans les caves de la Dordogne, un anthropoïde préhistorique qui, s'il a froid, sait à peine faire du feu, si un orage éclate, ne sait pas comment se préserver de la foudre, qui ignore les principes les plus simples de l'agriculture, qui ne sait pas s'il pourra se nourrir l'hiver suivant, et qui passe toutes ses nuits dans l'obscurité et dans la terreur. Comparez-le à un Français ou à une Française moyen de ce siècle, qui, s'ils veulent de la lumière ou de la chaleur, n'ont qu'à tourner un bouton, qui savent sélectionner leurs grains et leur bétail, qui peuvent compter sur la sécurité sociale en cas de maladie et sur les réserves du monde entier en cas de mauvaise récolte. Aucun doute, de l'un à l'autre, il y a eu progrès. La nature a été peut-être pas domptée, mais au moins bridée et mise pour une part au service de l'homme. Ce que j'appelle la première révolution industrielle, c'est celle du XIXe siècle et de la première partie du XXe. Elle a commencé par la découverte de la machine à vapeur. Le charbon a fourni alors l'énergie nécessaire pour beaucoup de travaux, pour pomper l'eau des mines, pour déplacer les paquebots sur les rivières, pour réaliser plus tard par chemin de fer des transports rapides, pour faire mouvoir dans l'industrie textile ces métiers dont depuis des siècles les hommes et les femmes jetaient les navettes à la main. La machine à vapeur a donc grandement amélioré la condition humaine. Toutefois, elle a eu ses inconvénients. Le tisserand primitif pouvait travailler chez lui. La machine à vapeur, elle a exigé une concentration autour d'elle des ouvriers. Les métiers n'ont plus été dans la maison du tisserand à la campagne. Il a fallu que 500, 1000 métiers se groupent autour de la machine. Elle a donc favorisé le développement des grandes usines et des grandes villes. Elle a ainsi contribué à affaiblir la civilisation rurale. Au début, elle a même entraîné des industriels qui étaient alors ivres de puissance, vers 1830-40, à embaucher des enfants de 6 ans et à prolonger le temps de travail pour satisfaire à des demandes grandissantes. J'ai encore connu, moi, vers 1903, la journée de travail de 12 heures dans des usines de Normandie, et c'était très dur. Puis, le remède est venu du mal lui-même. La concentration des ouvriers leur a permis de s'organiser, de se connaître, de lutter ensemble pour obtenir des conditions de travail et des salaires plus équitables. Elle a amené l'extension du suffrage et elle a ainsi fourni aux déshérités un moyen de pression. L'invention du moteur électrique, deuxième étape, a rendu la machine plus individuelle. On peut mettre un moteur électrique dans chaque maison. L'invention du moteur à essence a été la troisième étape. Il est important de remarquer que les effets du moteur à essence ont été exactement contraires à ceux de la machine à vapeur. La machine à vapeur amenait une concentration. Le moteur à essence augmentait l'énergie de l'individu isolé. L'automobile permettait le transport individuel, les relations personnelles du campagnard avec les marchands des villes. Elle ramifiait les transports en commun beaucoup plus que n'avait pu le faire le chemin de fer. Le car va jusque dans les plus petits villages. En somme, on pourrait dire que le moteur à essence a opéré pour les pays une sorte de massage des extrémités et les a sauvés de l'ankylose. La multiplication des automobiles a rendu la circulation presque impossible dans nos grandes villes et parfois sur nos routes. À Paris, il faut aujourd'hui autant de temps pour aller en automobile de l'Étoile à l'Institut que jadis pour faire le même trajet en voiture à cheval. Le progrès s'annule lui-même. Mais la plus étonnante invention de la première révolution industrielle a été la lampe électronique qui a permis de créer la radio et la télévision. Apporter des voix et des images à l'intérieur de chaque foyer, c'est là un pouvoir extraordinaire. Nous avons oublié à quel point c'est extraordinaire, mais si vous vous représentez la chose mise devant un homme d'il y a seulement 50 ans, c'est stupéfiant. Radio et télévision tentent à fixer les familles chez elles et à les regrouper autour de l'écran, autour du haut-parleur. À la vérité, il est trop tôt encore pour dire si les effets auront été, pour l'humanité, fastes ou néfastes. Danger, habituer les hommes à être sans cesse alimentés de mots et de spectacles, ce qui supprime la nécessité de penser. créer le besoin de cette présence continue, si bien que certains de nos enfants sont intoxiqués de radio et ne peuvent plus travailler qu'en musique. Possibilité pour tous les gouvernements de bourrer les crânes de propagande. Avantage au contraire, possibilité de répandre une culture vraie, le goût de la bonne musique et du beau théâtre, permettre à chacun d'assister à des cérémonies admirables qui, autrefois, eussent été inaccessibles, par exemple le couronnement de la reine d'Angleterre. Bref, à la fin de la première révolution industrielle, l'emprise de l'homme sur la nature avait considérablement augmenté. Il avait conquis l'air, il avait mis les ondes à son service, il avait remplacé beaucoup de manœuvres par des machines, il avait mis au travail, outre les grandes forces hydrauliques, des réserves de charbon et d'essence, et pourtant, il restait vulnérable sur plusieurs points. Primo, toute sa civilisation, notre civilisation, était fondée sur une énorme consommation d'énergie, qui allait sans cesse en croissant. Ces milliers de voitures qui roulent, ces avions qui volent, vident rapidement les puits de pétrole. Les milliers de cheminées qui fument dissipent le charbon accumulé au cours des âges. Les chutes d'eau vraiment utilisables étaient presque en service, presque toutes. Les stocks d'énergie s'épuisaient donc, et d'ailleurs il était absurde de gaspiller charbon et pétrole, qui sont des matières précieuses pour l'industrie chimique. Brûler du charbon, c'est presque aussi bête que de brûler du diamant. Ici se place la seconde révolution industrielle, celle de notre temps. Norbert Wiener, le savant qui en est le brillant démonstrateur, dit que la seconde révolution coïncide avec la conquête par l'homme de l'énergie atomique, mais qu'elle n'est pas caractérisée par cette conquête. Alors par quoi est-elle caractérisée ? Par un automatisme croissant qui tend à remplacer par des machines non seulement la force physique de l'homme, mais son cerveau. Et ici, nous entrons dans le vif de notre sujet. Toutefois, il faut dire avant de commencer que la découverte de l'énergie atomique, à la condition que tout se passe sans guerre, va singulièrement renforcer l'emprise de l'homme sur la nature en mettant à sa disposition des sources illimitées d'énergie. Nous avons dit qu'au moment de la première révolution industrielle, on pouvait entrevoir le moment dangereux, et pas très lointain, où les réserves de charbon et de pétrole s'épuiseraient. Vous imaginez l'humanité tout entière en panne d'essence ? Je sais bien qu'on pensait à créer des usines marémotrices, à capter l'énergie solaire. Monsieur Armand vous en a, m'a-t-on dit, parlé l'autre jour. Et il est vrai que 100 jours de soleil amènent sur la Terre autant d'énergie que tout le charbon et tout l'uranium de la planète. Seulement, on ne peut capter qu'une infime partie de cette énergie. Il faudrait des terrains géants pour faire concurrence à la moindre station thermique. Sans doute, on peut, dans des pays très ensoleillés, faire chauffer son bain par le soleil. Mais essayez en Angleterre. Que de rhume. La seule bonne machine à capter le soleil, c'est encore la plante et la vache à travers la plante. Au contraire, l'énergie atomique, elle, est une réalité immédiate. Elle n'est pas encore moins chère que l'énergie tirée du charbon ou des chutes d'eau, elle coûte à peu près le même prix, mais elle est plus abondante et l'énergie n'est plus un problème pour les ingénieurs de l'époque atomique. Ils peuvent construire autant de machines qu'ils jugent utiles et les utiliser à plein. Quelles machines vont-ils construire ? Eh bien, des machines capables de se diriger elles-mêmes et d'agir sans intervention de l'homme. Peut-être avez-vous visité une grande usine d'automobile comme Renault. Vous avez vu alors fonctionner cet étonnant organisme qu'est la chaîne sur laquelle la voiture se construit en avançant. Mais tout au long de la chaîne, des ouvriers, protéger la machine contre les erreurs possibles, surveiller le travail et l'alimenter. Déjà plus étonnant était chez Renault des extraordinaires outils qui faisaient 32 opérations différentes et qui se repassaient les pièces les uns aux autres au moment convenable de la fabrication. L'objectif qu'on poursuit aujourd'hui est bien plus ambitieux. On a construit aux États-Unis, on va construire en Allemagne, en Angleterre et certainement aussi en France, des chaînes où tout sera fait par les machines. C'est possible à deux conditions. La première, c'est que l'homme, c'est que la machine ait comme l'homme des mains pour saisir, par exemple, une tôle de carrosserie, pour la retourner. Ça, c'est très facile. Des griffes font l'affaire. Et puis qu'elle ait des organes pour voir où est l'objet qu'elle doit manier, pour rectifier la manœuvre si un faux mouvement a déplacé cet objet, ou pour avertir s'il se produit un incident imprévu. La machine moderne a non seulement des mains, des pieds, mais des organes des sens qui lui disent ce qui se passe autour d'elle, comme nos yeux et nos oreilles nous le disent à nous humains. Voulez-vous un exemple ? Devant une chaudière à charbon, on installe des cellules photoélectriques qui sont chargées de regarder le foyer. Elles détectent des morceaux de charbon non brûlés. Aussitôt, elles communiquent leurs observations à une soufflerie qui envoie de l'air sur les points qui en ont besoin et y active la combustion. On économise ainsi 10% du charbon. Voilà des machines qui voient et qui agissent sur ce qu'elles ont vu. J'ai vu à Dunkerque une raffinerie de pétrole géante et qui est atteint vraiment à la beauté par les hautes tours d'argent qu'elle dresse dans le ciel marin, une sorte de tuyau d'orgue géant, et où les ouvriers n'ont pour tâche que de surveiller un tableau où ils peuvent lire à chaque instant ce qui se passe à l'intérieur de ces immenses jeux d'orgue. Les ouvriers ne s'occupent de rien. L'usine se raconte et se confesse à chaque minute. Et si elle est inquiète, elle avertit par un sifflement. Il y a plus. La machine moderne a de la mémoire. Elle sait enregistrer ses actions passées et elle tient compte de l'expérience en décidant de ses actions futures. Depuis longtemps, on avait essayé de construire des joueurs d'échecs automatiques. Edgar Poe, dans une célèbre nouvelle qui s'appelle « Le joueur d'échecs de Maelzel », avait décrit la fraude d'un montreur d'automates qui cachait un enfant à l'intérieur du mannequin. C'était l'enfant qui jouait réellement les coups. Mais aujourd'hui, on peut construire des machines capables, sans fraude, de jouer non pas toute une partie d'échecs, mais de faire, dans une situation donnée, deux ou trois mouvements tout à fait raisonnables. Ces automates, en outre, enregistrent les parties déjà jouées et, avant un coup nouveau, passent en revue d'eux-mêmes les jeux anciens afin de voir si la même situation se retrouve. Et si cette situation se reproduit en effet, la machine jouera automatiquement le même jeu. Quel est le résultat ? C'est que non seulement cette machine a de la mémoire, mais qu'elle peut prendre de bonnes et de mauvaises habitudes. Si un bon joueur lui fait enregistrer des coups brillants, elle jouera ensuite brillamment. Des enregistrements médiocres feront d'elle un joueur médiocre. On peut donc la dresser comme on dresse un cheval. De même, un canon antiaérien suit un avion, enregistre les feintes du pilote qui cabriole pour échapper au canon. Et au moment de tirer, le canon tient compte du caractère particulier du vol et des habitudes du pilote. La vitesse de l'objectif impose dans ces cas-là une extraordinaire rapidité de vision et de tir. Autrefois, en artillerie classique, un officier faisait les calculs puis commandait le tir. Ici, c'est le canon lui-même qui, infiniment plus vite que l'homme, tient compte de toutes les circonstances. C'est lui qui, par radar, découvre l'avion, mesure sa vitesse, note sa direction, fait les corrections rendues nécessaires par les feintes, par l'avance, par l'état de l'atmosphère, par l'état du canon. C'est lui qui tire, non pas sur l'avion à l'endroit où il est, mais sur le point futur où l'avion sera après le temps nécessaire pour le trajet de l'obus. En un mot, tout se passe comme si le canon était infiniment plus intelligent que le canonnier. En fait, le canon n'est pas intelligent, mais il est plus rapide parce que ses transmissions étant électroniques vont à la vitesse de la lumière, tandis que nos pensées étant verbales, nous parlons notre pensée, vont à la vitesse du son. Action, mémoire, faculté d'apprendre, et voilà déjà les possibilités d'un bel avenir pour l'Europe. Seulement, il n'y a pas dans tout cela le plus petit commencement de conscience. Un robot n'est pas un homme. Villiers de l'Isle-Adam a écrit un beau roman, L'Ève future, dans lequel une femme qui n'était qu'un automate et qui parlait par disque faisait si bien illusion qu'un homme devenait amoureux d'elle. Mon Dieu, je sais bien qu'il y a des femmes dont la conversation est une série de disques et dont les passions tiennent plus de l'automate que de l'être pensant. Pourtant, nous savons tous que la robote qui nous séduira n'a pas encore été construite. On aura beau nous montrer que les mécanismes du cerveau humain sont l'un après l'autre imités par le cerveau électronique, un abîme continuera de séparer la machine de l'homme. On pourrait réunir en une seule machine tous les moyens de transmission électrique, mécanique, électronique existant sur la planète, et on serait encore bien loin de la complexité du cerveau humain. Nous avons construit des merveilles, mais nous sommes la merveille des merveilles. Est-il possible que les cerveaux électroniques réduisent les cerveaux humains au chômage absolu ? Non. Non, parce que ce sont les cerveaux humains qui construisent les cerveaux électroniques. Une machine peut à la rigueur construire d'autres machines, mais elle ne peut pas s'améliorer. Non, parce que ces mécanismes coûteux ne peuvent exister que dans d'immenses usines fabriquant toujours le même objet en grande série et que le nombre de tels objets est limité. Non, parce que dans les petites industries, dans l'artisanat, dans les arts, le robot est inutile. Dès qu'il s'agit d'un travail original, le cerveau humain retrouve sa supériorité. On estime aux États-Unis qu'une application aussi complète que possible de l'automatisme ne libérerait que 8% de la main-d'œuvre. Et même dans certains cas, dans les charbonnages par exemple, l'automatisme rend nouveau rentable des entreprises qui avaient cessé de l'être et au lieu de retirer du travail, en donnera. Exemple, le téléphone automatique a doublé la main-d'œuvre utilisée dans cette industrie parce que le téléphone devient plus commode et qu'on s'en sert davantage. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup d'ouvriers et surtout de manœuvres seront remplacés par des machines. Voyez en agriculture combien d'hommes une moissonneuse-batteuse a franchi des durs travaux. Quelles sont les conséquences ? D'abord, diminution des heures de travail. Nous en sommes à la journée de 8 heures, bientôt à la semaine, même nous en sommes à la semaine de 40 heures, probablement bientôt à la journée de 6 heures. Donc, affranchissement de l'homme. Ensuite, le besoin d'ouvriers hautement qualifiés obligera beaucoup plus d'hommes à être un peu savants, un peu ingénieurs. Est-ce là un mal ? Le travail semi-scientifique d'un ouvrier intelligent sera infiniment plus intéressant que n'était celui du manœuvre. Quant à la diminution du temps de travail, elle est un bien si les nouveaux loisirs sont bien employés. Et c'est cela qui implique des devoirs nouveaux. Pour que les cerveaux humains puissent jouir des loisirs que leur donneront les cerveaux électroniques, il faut qu'ils aient été préparés à goûter les activités libres de la culture et des arts. Nos sociétés devront développer l'éducation littéraire et artistique bien plus qu'elles l'ont fait jusqu'à présent. Nous devrons y veiller, car le besoin de techniciens scientifiques va pendant quelque temps fermer les yeux sur la nécessité d'un complément affectif. Et pourtant, cette éducation artistique est aussi essentielle que la production matérielle. C'est elle qui permettra les découvertes futures en maintenant le cerveau humain dans cet état de curiosité, de recherche ardente, de capacité créatrice, en un mot de passion qui a inspiré les grands inventeurs du passé. Donc, éducation musicale dans les écoles, développement des musées, décentralisation théâtrale, voyages de vacances liés à la découverte de beautés inconnues, tout cela non seulement est excellent, mais est indispensable à la santé morale de la nation dans cette ère nouvelle. Loisirs, énergie abondante, transports rapides permettront à l'homme des villes de reprendre contact avec la nature et à tout homme de connaître un univers plus vaste. Où serons-nous dans 50 ans ? Sur le plan matériel, on peut donner des réponses probables. Chaque homme aura à sa disposition beaucoup plus d'énergie que maintenant. On vivra dans de petites cités reliées par des moyens de transport aérien à une vitesse 3 et 4 fois supérieure à celle du son. Les matériaux plastiques auront remplacé pour une large part ceux qui sont extraits de la terre. On pourra prédire le temps, l'élevage aura été amélioré par des mutations contrôlées que l'on produira par action de radiation sur les cellules. La vie humaine sera prolongée, on reverra Mathusalem, et les innombrables centenaires poseront dans les académies de graves problèmes. L'astronautique sera devenue un sport à la mode et le système solaire aura été exploré. Ces changements ont leur intérêt. Ils peuvent améliorer la condition humaine, mais seulement si les hommes s'en servent raisonnablement. Il ne faut pas se lasser de répéter que les choses, les machines, le monde de la matière ne veulent rien. L'univers n'est ni hostile ni favorable, il ne s'occupe pas de nous et fonctionne suivant ses lois mystérieuses à de telles échelles de petitesse et de grandeur que ses secrets nous échappent. Nous pouvons découvrir des recettes utiles, et c'est ce que font nos savants. Sur le fond des choses, nous ne savons rien. La fierté que montrera certainement l'humanité si elle réussit un jour à atteindre la Lune ou Vénus sera comique. Ce sera la fierté du Siron qui se sera déplacé d'un grand sable à un autre. Ce n'est pas là notre vraie grandeur. Cette vraie grandeur est celle de l'esprit. Les cerveaux électroniques pourront apporter des réponses à quelques questions, résoudre de difficiles équations, accroître la production. L'avenir de l'espèce humaine dépend non de ses découvertes, mais de ce qu'elle en fera. Les nouvelles puissances de l'homme peuvent amener 3 séries d'événements tout à fait différentes. Ou bien les hommes deviendront complètement fous, comme ils l'ont été si souvent, et ils utiliseront leur puissance nouvelle pour un anéantissement total de l'espèce et de la planète. Ou bien ils n'iront pas jusqu'à ce suicide collectif, mais détruiront la présente civilisation et ne laisseront subsister que des îlots de barbarie. Ou enfin, ils travailleront en commun à préparer la collaboration pacifique de tous les peuples de la Terre pour l'amélioration du sort de tous. En ce dernier cas, un avenir d'abondance et de bonheur attend les générations futures. Mais ce choix-là, qui est le seul important, ne sera pas fait par un cerveau électronique. Il sera fait par vous, par moi, par tous. Il sera le choix de l'esprit et la seule décision vraiment prise à l'échelon le plus élevé.
C'était Les Grandes Conférences, L'Homme et la Machine par André Mauroy. Première diffusion sur la chaîne nationale le 30 janvier 1956.